Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Bonjour et bienvenue sur Radio Aligre en ce 8 mai, il est 18h. Je suis Alice de Brancion du podcast Read et ce mois de mai sera un peu particulier dans Chute Libre puisque Paul de Brancion est en résidence d'écriture en Ardèche. Il laisse carte blanche à deux journalistes culture, Emmanuel Gavard et moi-même, pour charmer vos oreilles. Et aujourd'hui, pour cette émission qui a pour titre « Chic et Schlag », nous allons parler du monde de la culture vu par ceux qui y travaillent. Qu'est-ce qu'être éditeur indépendant aujourd'hui et journaliste pigiste? Entre sacerdoce, passion et sacrifice, où en est le monde de la culture par celles et ceux qui la font? Et on a invité aujourd'hui dans la deuxième partie de l'émission les éditions Lanskin, les éditions théâtrales et les éditions Ronce. Mais pour commencer, je suis avec Jules Leroy et comme on se connaît, nous allons nous tutoyer si ça te va.
Ça me va très bien.
Super, tu es éditeur aux éditions Lanskin, qui est une édition fondée et dirigée par Catherine Tournier, qui existe depuis 2008, c'est ça?
C'est ça. Bon, bonjour Alice, merci beaucoup pour l'invitation.
Bonjour Jules.
Et de m'avoir fait venir un jour férié.
Oui.
Et oui, moi ça fait 2 ans que je travaille aux éditions Lanskin, qui est une maison d'édition de poésie contemporaine, donc qui publie des textes de poésie de poètes et de poétesses vivants. Et...
Pas de poètes morts.
On en a un, on fait une exception, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est le seul qu'on ait. Ouais. Et donc ça a été fondé maintenant, ça fait presque 15 ans, par Catherine Tournier, mm-hmm. que j'ai la chance de connaître et qui est une personne, on va dire, électrique, qui a tenu cette maison qu'elle a créée pendant 15 ans toute seule avant que je la rejoigne et qui a construit patiemment son catalogue au fil des titres. Et maintenant, on est à presque 300 livres, il me semble.
Et toi, comment est-ce que tu es arrivé dans ce monde de l'édition?
Eh ben, comme ça, par la petite porte. Moi, j'étais dans un laboratoire d'anthropologie et d'archéologie où je faisais de la data. Et bon, j'ai eu la chance d'être quand même un lecteur assez compulsif et de faire plusieurs métiers dans le livre. Et je m'ennuyais un petit peu quoi dans mon laboratoire.
Dans ton laboratoire.
et j'ai eu peut-être la chance, j'avais décroché des stages. Et avant d'aller dans les stages, j'en ai parlé à Catherine avec une petite idée derrière la tête, et elle m'a dit « mais si tu veux, moi j'ai un boulot pour toi », et ça l'a fait direct, et maintenant je m'ennuie plus.
Ouais, donc ça a marché, c'est ça de sortir marché. Du laboratoire.
Ouais. C'était la meilleure décision, voilà. Ouais. Et toi Alice, donc t'as dit journaliste pigiste, ce qui n'est pas un terme super clair, est-ce que tu veux bien m'en dire plus? Et surtout que j'ai l'impression que tes activités se multiplient. Quoi.
Oui. Comme les éditeurs indépendants aussi. Journaliste, pigiste, ça veut dire que t'es sur différents fronts simultanément. Tu n'appartiens pas à une seule rédaction. Et je pense que beaucoup de gens disent freelance, mais c'est pas freelance. Pigiste, ça appartient à la catégorie des journalistes, qui a un statut à part entière. Je le précise, c'est important.
Oui, tu as ta carte de presse.
Exactement. Et on est au régime général. Bref, ça c'est de la technicité, c'est de la tambouille de journaliste. Et donc je suis journaliste depuis une petite dizaine d'années. Et j'ai commencé plutôt dans l'audiovisuel, dans la télévision, dans une émission que certains connaissent peut-être, qui s'appelle 28 minutes sur
Bien
Arte.
Sûr, ouais.
Et ensuite j'ai trouvé ça super la télé, parce que tout le monde, c'est comme une grande famille de gens qui travaillent beaucoup. Et qui font beaucoup la fête aussi. Mais surtout qui travaillent beaucoup. Et donc je trouvais ça très sympathique. Après un parcours universitaire, on est quand même plutôt seul. Et où peut-être que les gens font la fête, mais on ne sait pas trop. Ça se voit peut-être moins. Et ensuite, j'ai commencé la presse écrite simultanément à mes activités audiovisuelles. Pour différentes magazines, plutôt. L'organe qui s'appelle SoPress, ou ce genre de choses. Et à un moment, je me suis plutôt spécialisée dans le cinéma, en télévision, donc plutôt Canal+, qui détient les droits des films. Donc quand on veut pas être cinéma en télé, il faut aller sur Canal+. Voilà.
Bon, et maintenant c'est plutôt même la littérature, là, maintenant avec ton podcast.
Oui, et donc en fait on est ici parce que je fais ce podcast littéraire qui a la chance de pouvoir être ici pendant... pendant une petite heure, une fois par semaine, pendant le mois de mai. Et ça, c'est quand même très sympathique. Et en fait, merci du coup de m'avoir laissé me présenter, c'est très gentil. Et on s'était dit que pour ouvrir cette émission, on avait décidé de parler chacun d'une lecture de la semaine qui nous a intéressés. Et donc toi, Jules, t'as décidé de parler d'un auteur américain qui s'appelle Robert Coover.
Ouais, belle prononciation. Non, c'est vrai que moi, j'ai quand même un côté un peu monolecture, quoi. C'est quand je découvre quelqu'un ou quelqu'une, je lis tous ses livres jusqu'à ce que je m'en lasse. Et ouais, pendant plusieurs semaines, je vis dans leur peau. Peut-être, c'est pas que je pense, c'est que je pense comme eux, mais...
Mais tu les... C'est-à-dire que tu enchaînes,
ouais,
tu découvres...
J'enchaîne, et... Et oui, et puis je me laisse un peu contaminer quoi, pendant plusieurs semaines. Et là, j'avoue que je suis dans ma phase un peu Robert Coover, qui est un écrivain américain en fait, qui fait partie de la génération des écrivains après-guerre. Et c'était presque le dernier, puisqu'en fait, il est mort l'an dernier, en 2025. Et il a juste eu le temps de faire un dernier livre qui a été traduit l'an dernier chez Kidam, qui s'appelait Mascarade. Et pour celles et ceux qui s'en souviennent, bah, c'était quand même un livre incroyable. C'était en fait on montait au centième étage d'un building pour aller dans un penthouse au centième étage en fait pour une nuit un peu de sexe et de violence ce qui était très satirique en fait. Il y a tout le monde dans cet appartement, les fashion,
les gens de la mode,
des couples en fin de course, les picassiettes des vernissages, et en fait c'est vraiment ça l'aspect satire, c'est que tout le monde a le droit à son monologue dans lequel il présente sa classe sociale et sa manière de penser. Donc c'est ça le style de Robert Coover. C'est entre ce qu'on appelle le réalisme magique, parce qu'en fait il y a beaucoup d'éléments d'irrationnel qui surgissent dans un cadre très bien défini historiquement, et vraiment la satire sociale burlesque.
Et toi, tu l'as rencontré à travers ce premier texte.
Ouais, Mascarade, ça m'avait bien marqué. Il y avait une nonne en couverture, c'était très beau. Et donc là après je me suis lancé sur son livre qui est le plus connu, qui s'appelle Le bûcher de Times Square, et qui se passe en pleine guerre froide. Ouais, pour rappel, c'est le sénateur McCarthy qui lance la chasse aux sorcières, la chasse aux communistes. Et en fait, on suspecte certains Américains de trahir le pays. C'est ça, en fait, qui rejoignent, qui prennent leur carte au parti, c'est les ennemis de l'intérieur. Et je trouve que ça fait beaucoup d'écho à la période qu'on vit aujourd'hui, en fait, où on désigne un ennemi. Comme si la politique, elle a besoin de se créer un ennemi.
Pour vivre.
Pour exister. Ouais. Et donc à cette époque, les Russes font la bombe et du coup on pense que quelqu'un leur a donné le secret. Et il y a une enquête très vite expédiée pendant un été. En fait, tous les juges sont partis en vacances ça passe par un petit GI en province. Et de fil en aiguille, on tombe sur un couple effectivement qui avait leur carte au parti, mais qui était sans doute innocent, maintenant on le pense. Et le procès est expédié et en fait ils sont condamnés à mort.
C'est les Rosenberg,
les époux Rosenberg, ouais, c'est ça. Et ils vont finir à la chaise électrique et en fait ils s'amusent beaucoup avec ça, Coover, parce que ça lui fait penser, en fait ils sont brûlés sur la place publique, brûlés par l'électricité, donc comme un feu moderne, mais en fait c'est la chasse aux sorcières, comme les sorcières qu'on mettait au bûcher. Et en fait moi ce qui m'a bien plu, en fait c'est ce truc qu'il a de toujours prendre des événements et des personnages réels et de les intégrer à sa fiction. En fait c'est comme s'il ouvrait un enregistreur très grand ouvert, comme ça, il enregistre tout, il nous redonne tout sur la page, et il fait un montage de toutes les coupures de journaux, tous les experts autoproclamés, tous les discours politiques, tout ça qui est mis bout à bout, et à la fin on se rend compte que c'est une fable complète dans le livre, mais en fait c'est la fable dans le monde aussi.
Parce que là c'est un roman, c'est-à-dire que c'est fictionnel.
Ouais, c'est un roman, oui c'est un roman.
Basé sur du fait réel.
Difficile à catégoriser, mais en tout cas c'est un roman donc que je recommande vraiment, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris un plaisir aussi grand à le lire. Et même pour vous dire, en fait il y a beaucoup de passages à l'intérieur où le président Nixon, qui est le futur président qui est choisi par l'Amérique pour incarner ses idées, en fait le Robert Coover se met à inventer plein d'épisodes de sa vie, de ses premiers émois sexuels, la manière dont il va liquider les libéraux, les journalistes, comment il les met à sa botte, c'est sa conquête du pouvoir en fait. Et ça m'a beaucoup intéressé, cet aspect qui est un peu fanfiction, quoi. Quand on dit ça, fanfiction, quand quand on imagine la vie d'une célébrité, qu'on crée un roman à partir de cette vie-là.
Parce qu'on n'a pas accès à un certain nombre d'informations, ouais. Et donc on s'imagine ce à quoi on n'a pas accès.
Bah, et ça attache notre imaginaire et on décide de broder dessus, quoi. Et je pense que la fanfiction, c'est quand même quelque chose qui est très lié peut-être à une activité un peu geek ou un peu de groupie, ou je sais pas comment dire. Mais en fait, moi, je pense que la fanfiction, c'est vraiment quelque chose qui... par lequel on essaie de comprendre notre rapport aux médias, et c'est une manière de critiquer notre rapport aux médias. Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, ce rapport aux médias?
Oui, quand même, ouais. J'aime bien en tout cas quand la littérature s'en empare, et c'est vrai que c'est ça que j'ai ressenti à la lecture de ce livre. Je me suis dit, c'est comme s'il y avait un voile qui s'était levé, et que d'un coup on se trouve au-dessus du bouillon de l'actualité. Ça nous permet de prendre un recul. En fait, d'un coup on regarde de très loin le flux des médias dans lequel on est.
Il faudrait passer par la fiction pour comprendre le réel, en fait.
Ouais, et surtout, c'est en même temps, c'est pas une analyse qui s'ajoute aux analyses, parce que c'est vrai qu'on voit toujours ça à la télé. On essaie de décrypter, de faire du fact-checking, je sais pas. En fait, on produit un récit par-dessus les récits. Couvert, lui, il fait pas ça. Il dit, je mets tous les récits côte à côte et je montre comment un récit se crée, comment on crée des mythologies, comment on crée aussi le conditionnement des esprits, c'est la manière dont. En fait, l'actualité devient une forme aussi de mythologie. C'est ça qui m'a plu. Ouais. Et lui, c'est ça. Il décrit l'histoire américaine. C'est la farce perpétuelle. Plein de bruit, plein de mensonges, plein de délires. Et en fait, surtout, il écrit les choses qu'il écrit dans ce livre. En fait, ont vraiment été dites par des gens et qui sont passés à autre chose et qui pensent peut-être que leur énormité ont été oubliées. Et lui, en fait, le fait de le mettre dans les livres, en fait, vous avez bien dit ça à un moment, vous êtes emballé.
Ça s'inscrit,
et peut-être que vous avez le droit maintenant de faire votre autocritique. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant, ça, d'écrire noir sur blanc ce que les gens ont dit à un moment, et peut-être qu'ils doivent revenir dessus.
Un mea culpa public.
Un mea culpa. Et là, c'est un peu ma façon de m'adresser à la journaliste que tu es.
Faire un mea culpa quoi?
Faire un mea culpa, si t'as quelque chose sur la conscience.
Non, ça va pour l'instant.
Mais en fait, oui, c'est quelque chose qui a été dit, parce que c'est vrai qu'à travers ce roman, c'est ancré dans la guerre froide, mais en fait, on a eu plein d'épisodes comme ça, après l'Irak, le Trump aujourd'hui, et en fait, il y a toujours un emballement comme ça, Gaza évidemment, où en fait, t'as jamais ce temps de prendre le recul et de réfléchir. Ouais.
Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, notamment sur le fait de la création du récit. Parce que j'avais lu il y a quelques années un livre de Pierre Bourdieu qui s'appelle Sur la télévision, qui m'a aussi beaucoup permis de m'éloigner de la télévision après l'avoir lu, qui parle du fait que la télé peut faire voir et faire croire à ce qu'elle donne à voir. Donc, que la parole reste primordiale, que dans ce qu'on qualifie, quand on montre une image, il faut la qualifier et que du coup la parole reste très importante, mais que le choix de l'image montrée et le choix de la qualification fait qu'on construit du réel.
Ouais.
Et que la télévision est particulièrement forte là-dedans, puisque comme on a une image, on a une forme d'autorité sur l'image, alors qu'elle est construite.
Mais je pense surtout qu'on n'a pas le même rapport, enfin, on a une certaine fragilité en face de l'image qui est beaucoup plus immédiate oui, au niveau des sens. C'est vrai qu'une image, elle est difficile, c'est difficile de revenir dessus, quoi. Mais en même temps, il y a cette espèce de mythe que l'image, c'est de la vérité pure, puisque ça a été filmé. Alors qu'en fait, l'image peut
subjective.
Est subjective dans tous les
cas. Puisque c'est un regard, ouais. C'est un choix de prendre telle ou telle chose, ça reste ouais. Très très subjectif.
Un effet de montage. Mais c'est marrant parce que je pense que Bourdieu, c'est un des seuls moi, que j'ai vu à la télé
oui.
Dans les intellectuels, c'était pas. Mais il fallait dire quel courage d'y être allé. Quoi.
Bah, je pense qu'il se dit autant utiliser l'outil de l'ennemi, je ne sais pas. Ou peut-être faut-il connaître les ressorts de ce dont je parle.
Ouais. En tout cas, je ne verrais pas quelqu'un. Aujourd'hui de cette ampleur, en tout cas accepter d'y aller, parce que ça sent tellement le traquenard. Et le...
Oui, alors oui, tu parlais de montage, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le... Enfin, je me permets, parce que du coup, comme j'ai beaucoup fait été dans télé, du côté des rédactions, pas du côté de l'antenne, il y a effectivement les gens qui cadrent, et donc l'image que tu vois, et ensuite il y a le montage qui effectivement peut... faire pas mentir, mais qui est dangereux, puisque tu peux pas accuser de pas l'avoir dit, mais que la manière dont c'est monté rend la parole
quand tu dis montage, c'est par exemple le fait de mettre une image, enfin vraiment basiquement de mettre une image l'une après l'autre, et du coup forcément tu crées une forme de
dans une interview t'as un flux, donc tu interviews quelqu'un pendant 5 minutes et en montage tu peux décider d'en enlever 3,
ouais.
Mais pas 3 au bout de 2 minutes, mais en enlever 3 on est en recollant des phrases entre elles. Et sans, tu peux, il y a une interdiction évidemment de faire dire des choses qui n'ont pas été dites, mais tu peux orienter un discours en coupant à des endroits. C'est pour ça que les hommes politiques maintenant ont une diction très particulière, parce que ça empêche, ça nous empêche de monter. Oui.
Ah, je crois que c'était le contraire, parce qu'ils aiment bien justement créer des petites séquences pour le
Alors ils aiment créer des séquences, mais dans leur diction de phrases, tu remarqueras qu'ils choisissent de faire des pauses à des endroits où ils seront ok qu'on coupe, mais que si tu, mais ils vont pas faire de pause à des endroits dangereux, parce que sinon on pourrait. S'il y a pas de pause, on peut pas monter de toute manière.
En tout cas, c'est bien de t'avoir pour avoir cette petite cuisine de la télévision.
Alors, on revient tout de suite, mais d'abord un petit morceau de musique. Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 et nous sommes dans l'émission Chute Libre et je suis en compagnie de Jules Leroy des éditions Lanskine aujourd'hui. Rebonjour Jules.
Rebonjour Alice.
Et on parlait de ta recommandation littéraire.
Ouais. Et bon, et là c'était ma recommandation musicale.
C'était ta recommandation, pardon, oui. Et c'est toi qui as choisi la musique qui vient de se passer.
Oui, c'était un choix complètement subjectif. Je sors du concert hier, c'était One Trick Point Never qui est un musicien américain. Et qui est passé hier à Paris, la salle Pliel, et qui c'est quand même pas complètement éloigné de ce qu'on disait, parce que c'est ce qu'on appelle un musicien internet, parce que c'est quelqu'un qui a commencé sur les réseaux et qui a commencé beaucoup de musique en fait en faisant des montages, des petits bouts de musique mi bout à bout pour faire ses sons à la fin.
Et le morceau s'appelle Life World, c'est
Life
ça?
Life World, c'est surtout son dernier album, ouais. Et qui je trouve même est pas sans rapport non plus avec ton livre, ta recommandation de la semaine, Sabrina Calvo. Que tu as choisi,
oui.
Et qui s'appelle le Melmoth Furieux.
Absolument. Ouais, tu veux que j'en parle?
Oui.
Ah ben super. Alors oui, je voudrais parler de Sabrina Calvo et de son livre, comme tu le disais, Melmoth Furieux, qui est publié aux éditions La Volte, qui a été publié en 2021 et que j'ai découvert sur les conseils d'un libraire de l'odeur du temps à Marseille. Comme on ne dit peut-être pas assez, mais les libraires sont merveilleux pour conseiller des livres souvent. Et Melmoth Furieux est une réécriture de la Commune de Paris de 1871, mais qui se déroulerait à la fin du XXe siècle, au moment de l'ouverture de Disneyland Paris en 92. Je crois qu'on appelle ça une uchronie. On parle de faits réels et on tisse autre chose. Et dans ce livre, les Versaillais seraient ici Disneyland et ses milices et son Melmoth maléfique, et les Parisiens seraient toujours Parisiens. On y suit dans ce livre Phi, qui est une couturière de 35 ans qui vit dans la commune autogérée de Belleville et dont le frère s'est immolé pour empêcher l'ouverture du parc. Elle est hantée par la mort violente de son frère et elle part en quête de réponse en compagnie d'une bande d'enfants perdus, d'un personnage du nom de Villon, comme le poète, et qui semble être fait de matière en tissu, et elle va devoir faire face au tunnel sous le parc d'attractions et à la violence des milices. Ça, c'est le côté, c'est pour l'histoire en elle-même.
Le plot.
Exactement. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le rapport à la mode, paradoxalement, dans ce livre, aux vêtements qui semblent être contradictoires avec la volonté anticapitaliste du personnage principal, Phi, qui, rappelons-le, est couturière. Et en fait, je vais vous lire un extrait de ce livre où elle y parle de son rapport à la mode. La mode, dit Chipao à la pause. Tout le monde a que ce mot-là à la bouche, mais ça veut dire quoi? J'ai passé ma vie à ne penser qu'à ça, regarder où j'en suis. Je le regarde, combo salopette Gautier et Bob Pernod, avec des gants de soie coupés au bout des doigts pour laisser voir le vernis vert et une paire de sandales en tripes de castor. Je le trouve badass. La mode, c'est une Nyx ivre morte au bord d'un volcan en éruption, dit Betty. N'importe quoi, c'est une couette néolibérale. J'aimerais leur donner ma vision à moi de cette mode élusive à l'œuvre dans nos existences et qui trouve sa forme la plus extatique dans le vêtement. J'aimerais leur dire ce que j'avais compris plus jeune, que la mode c'est le rebond entre deux extrêmes, la futilité et la mort, qui, en épuisant l'un, se réifie dans l'autre. Boule de chaos éphémère qui prend forme, sublime, puis disparaît. La vie, franchement.
Oui, en fait, quand elle dit la mode, c'est aussi le marqueur d'identité, peut-être
Absolument. C'est exactement ça. Et parce que je pense qu'au fond, il y a une contradiction inhérente à la mode, pour moi, mais certainement pour d'autres personnes. À la fois, moi, je suis très fascinée par la haute couture, la beauté de ces vêtements. En même temps, j'ai une forme de dégoût face au prix de ces 10 vêtements et tout ce que ça véhicule. Les propriétaires des marques, cette espèce de chatoiement un peu obscène dans le contexte actuel. Et je trouve que le dernier exemple en date pour moi de ce truc contradictoire, c'est le Met Gala qui a eu lieu lundi dernier, je crois. C'est un gala annuel se déroulant à New York et qui est présidé par Anna Wintour, l'ancienne directrice de Vogue et papesse de la mode, et qui a inspiré le personnage du diable s'habille en Prada pour ceux qui vont au cinéma voir des films légers. Et le thème cette année, c'était « Fashion is art, la mode est un art ». Et le gros hic de ce moment, c'est que Jeff Bezos et son épouse, Lauren Sanchez Bezos, ont été les sponsors et présidents d'honneur de cette édition. Alors évidemment, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est très fascinant. J'ai été fascinée par les tenues qu'on a vues passer sur les réseaux sociaux, mais avec dégoût. C'est-à-dire en ayant l'impression de regarder une classe aristocratique se moquant du reste du monde qui brûle. C'est un peu désagréable comme moment. Et pour moi, ce texte, mais le mode furieux, parce que je reviens au texte quand même, m'a fait me rappeler qu'il faut se réapproprier ce que les milliardaires et les puissances octroient, c'est-à-dire la création et la beauté. Elle est à tous et permet d'exprimer son identité, son genre, et la mode s'accroche à nos corps, et nos corps sont puissants. Mon autre fascination est le genre de la science-fiction, dont je m'étais un peu écartée après avoir lu les classiques Orwell, Damasio, Bradbury. Et découvrir les jeunes auteurs francophones, notamment, a été une révélation, notamment grâce à la maison d'édition indépendante La Volte, fondée par Mathias Echenet en 2004. Et d'ailleurs, vous avez pu entendre Michael Rock la semaine dernière, qui est également publié aux éditions La Volte, parce que moi, je suis un peu monomaniaque, mais ça se situe plutôt sur les maisons d'édition. Et Sabrina Calvo est, quant à elle, une autrice d'origine marseillaise, également plasticienne, et qui écrit beaucoup de textes poétiques et fantastiques. Et c'est ça, je pense, que j'admire beaucoup dans la science-fiction et que j'ai redécouvert très récemment. C'est l'inventivité de ce genre. Et pour créer ce réel et cette inventivité, j'ai l'impression qu'il faut penser une langue nouvelle. Et en ça, la SF française s'approche pour certaines autrices et certains auteurs.
Quand tu dis travail de la langue, il me semble même qu'il y a un travail, quelque chose qui va un peu contre les règles classiques de grammaire.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça s'approche en fait assez proche de la poésie contemporaine à certains endroits. Parce que l'utilisation du point médian, parce que des langues hybrides, langues, de l'anglais, du français, du créole, il y a un mail, c'est très intéressant ce qui se passe.
Mais j'ai l'impression qu'on a choisi deux livres comme ça, un peu jouissifs quand même sur le plaisir de lecture et de langue.
Absolument. Et le dernier point qui fait que j'aime beaucoup ce livre, parce que j'essaie de vous convaincre finalement, c'est l'histoire de la Commune de Paris réactualisée. C'est ce moment d'histoire où le peuple parisien a cru en un monde plus juste, et cet idéal a fini dans le sang, comme on le sait. Et tout cela fait de Melmotte Furieux un texte qui m'émeut beaucoup et qui fait écho à un poème de Louise Michel écrit il y a un siècle dans « À ceux qui veulent rester esclaves ». Montmartre, Belleville, aux légions vaillantes, venez, c'est l'heure d'en finir, debout. La honte est lourde et pesante, les chaînes, debout. Il est beau de mourir. C'était pour être joyeuse.
Non, mais c'est assez marrant aussi ce que tu as dit sur la mode, en fait, ce nouveau rapport un peu idéaliste, parce que j'imagine que le livre tourne autour de ça quand même, des imaginaires un peu marchands, ou de la manière dont nous est pris l'imaginaire, qui est quand même incarné par Disneyland, qui a l'air d'avoir une place assez importante dans le livre.
Oui, Disneyland, c'est le mal.
Dans le livre.
Oui, c'est le mal, c'est le capitalisme d'une certaine manière.
Mais parce que c'est ça, en fait, il y a la commune libre de Belleville et les ennemis de Disneyland.
Du Disneyland, qui sont mais très, très, très décrits aussi à partir de t-shirts, ils parlent des habits en lien avec Disneyland, donc les robes de princesse, tout ça. Et dans cette commune libre, dans ce livre, le but c'est de s'habiller le plus créativement possible, comme une forme de, comment on dit, quand on part en guerre, on met
un uniforme
qui te protège, que les chevaliers mettent. Une armure.
Protéger.
La mode. La mode avec un grand M, c'est comme une armure d'identité, d'éthique, de volonté. J'aime bien cette idée. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, je sais pas, mais le rapport aux vêtements peut parfois être un peu complexe. Je sais pas.
Non, mais c'est bien sûr que oui.
Mais c'est vrai que les deux textes, paradoxalement, sont assez. Enfin, nos deux textes choisis, qui ont l'air quand même assez différents, restent assez proches dans leurs réflexions.
Oui, c'était pour ça que je trouvais que tous les liens n'étaient pas complètement artificiels. En tout cas, j'imagine même que dans ton texte, on cite les marques. Ce truc-là, en fait, j'aime beaucoup ça. Et on parlait du DJ juste avant, One Otrix. En fait, c'est vraiment ça que fait la littérature un peu maintenant aussi, que j'aime beaucoup. C'est ce truc qui est comme presque un mix, en fait, où on intègre dans le texte des...
L'émergence du réel.
Ouais, l'émergence du réel, mais vraiment brute, quoi. C'est-à-dire des marques dans ton texte, du Disneyland, des lieux réels de Paris, des...
Parfois, ça peut être incroyable. Parfois, je sais pas si tu as lu Murakami.
Le japonais,
ouais. Oui. Ouais. Parfois, c'est...
T'as énervé.
Bah, non, mais parfois, il parle beaucoup des lunettes Ray-Ban qui se remet sur le nez. Et au bout d'un moment, je me suis demandé s'il n'était pas sponsorisé par la marque pour l'écrire 14 fois dans son livre.
Je pense que ça fait partie de la construction d'un personnage, en fait.
C'est
comme notre imaginaire est déjà façonné par la marque Ray-Ban, ça lui économise.
C'est
très ironique.
Et en même temps, moi, je trouve ça... Enfin, je suis assez ambivalente sur la puissance des marques de mode parce que, notamment dans le domaine du cinéma, il y a de plus en plus de marques qui habillent l'entièreté du film. Mais du coup, ça fait une mainmise des marques sur la créativité cinématographique. Donc c'est un peu angoissant parfois.
Mainmise parce que maintenant, j'imagine qu'en plus, ça va plus loin que ça. Non, ils signent des contrats de...
Oui, il y a beaucoup d'argent.
Non, mais des contrats d'image où en fait, autour du film, en fait, la promo se termine jamais. Quoi. On doit continuer
d'habiter son personnage.
D'habiter son personnage même pendant les promos. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas me permettre de te poser une question.
je t'en prie.
Il me semble que la semaine prochaine, c'est le festival de Cannes qui commence.
Oui.
Puisque tu as commencé comme ça, Met Gala. Et les promos de films...
C'est un chemin qui te pave vers le festival de Cannes.
Ouais, ouais. Comment ça se prépare là,
J'y vais pour la 10e année. Et ça se prépare que les journalistes de cinéma ont la chance d'accéder parfois à des projections presse en amont du festival. Pour pouvoir...
Donc là, tu manges beaucoup de films.
Là, je mange beaucoup de films. Parce qu'en fait, comme il y a énormément de films simultanément et qu'il faut pouvoir écrire des papiers... et dormir aussi. Il est tout dans l'intérêt de tout le monde que nous allions voir des films un peu en amont pour avoir le temps d'écrire, de les digérer, de porter une réflexion. Notamment les films plus... Pas la compétition officielle, mais plus dans les compétitions plus alternatives, genre l'acide.
Tu voudrais faire ça, en tout cas, la semaine prochaine, de donner un peu de lumière à des films. Mais est-ce que c'est pas aussi une contrainte? Parce que de toute façon, tu n'auras peut-être pas... accès pour les interviews, en tout cas aux grosses productions.
Ça dépend, normalement ça va.
Ouais, ça les intéresse aussi.
La presse écrite, paradoxalement, même si elle est très précaire d'un certain côté, la presse écrite a encore ses lettres de noblesse. Donc quand c'est pour des interviews de presse écrite, pour des journaux, ça va, c'est plus difficile en télé. On a plus de temps en fait avec les réalisateurs ou les acteurs quand on est en presse écrite. On a 30 minutes, ce qui n'est pas non plus. Alors qu'en télé, on peut te dire tu as 7 minutes. 7 minutes, tu dis bonjour et après c'est fini. Est-ce que ce ne serait pas le moment bientôt d'écouter la deuxième musique qui est, avant même qu'on la lance, en lien avec le Festival de Cannes d'ailleurs, waouh, t'es si fort, qui est en fait une musique anglaise d'un groupe qui s'appelle The Streets, qui s'appelle Don't Mug Yourself, et qui est dans un film présenté à la quinzaine des cinéastes, dont je ne peux pas dire le titre encore parce qu'il est sous embargo, mais qui parle de trentenaires de Birmingham qui galèrent, mais qui croient en leurs rêves, et c'est un peu ça finalement, l'édition indépendante, le journalisme pigiste, c'est genre on galère mais on croit en nos rêves, et on va l'écouter tout de suite. A new day, another morning after, leaning back on my chair in a greasy spoon cafeteria. Last night was some beer lariness done our way, but again we're back in the light of day. Chatting, sitting at the wall table, telling jokes, playing with the salt, looking out the window. Girl brings two plates of full English over with plenty of scrambled eggs and plenty of fried tomato. Get my phone out,
About to give this girl a shout. See if she had a nice time last night uptown. Ask if she fancies trying it again sometime. Then Cal grabs the phone like, oi, 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 oi.
Hold it down, boy, your hair's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. By all means you can vibe with this girl. But just don't just mug yourself, that's all. Don't mug yourself.
Seriously, mate.
No, so I mean, I'm no way really, do you know what I mean? I can take it or leave it, believe. And then Calvin's like, oi, you need to hold it down, Jack. Put your phone back, quit staring into space and eat your snack, that's that. She'll want you much more for not hanging on. Stop me if I'm wrong, stop me if I'm wrong. Why should she be the one who decides whether it's off or on or on or off or on? Now the girl's rude, I know she's rude, but she's screwed right through you. You'll be on your knees soon.
Hold it down, boy, your hair's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. By all means you can vibe with this girl, but just don't mug yourself, that's all, don't mug yourself.
And I'm like, honestly, it's not like that. You're acting like I'm prancing like a sap, jumping when she claps and that. Oi, do you really think I act whack? Cause I'm telling you, I'm serving the aces and it's game, set and match. Perfectly in control of this goal. I've got the lead role, won't be folding, I'm older than you told. Girl sold, high speed's gold. Game over, too cold.
Hold it down, boy, your hair's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. By all means you can vibe with this girl, but just don't mug yourself, that's all, don't mug yourself. Hold it down, boy, your hair's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. By all means you can vibe with this girl, but just don't mug yourself, that's all, don't mug yourself.
Hold it down, boy, your hair's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. That girl is she a smelly on her piece.
Sur Aligre FM 93.1 et nous sommes dans l'émission Chute Libre. Et j'étais avec Jules Leroy il y a quelques instants et dans le studio viennent d'arriver deux autres compères. Quentin des éditions Ronce, bonjour.
Bonjour.
Et Mao Bouticourt des éditions Théâtrales.
Bonjour.
Je suis ravie de vous avoir autour de cette grande table. Je vais présenter vos maisons d'édition rapidement et puis vous insérez si il manque des éléments. Et après, je vous interroge, je vous passe sur le grill. Alors, les éditions théâtrales, je commence par toi, Mao. Ça vous va si on se tutoie tous ?
Très bien.
Oui,
super. Elles existent, de ce que tu m'as dit, parce que je ne fais en fait que répéter des éléments que tu m'as donnés, depuis 1981 en tant que collection, mais c'est devenu une maison d'édition à part entière à partir de 1989.
Oui, c'était une collection de la Ligue de l'Enseignement au départ, c'est ça.
Et vous publiez trois domaines principaux, la fiction théâtrale, la fiction théâtrale jeunesse et des essais, et vous êtes basé à Montreuil.
Oui.
Et tu es la co-directrice de cette maison depuis 2025.
Tout à fait.
Ouais, tout bon. Passer aux éditions Ronce, qui existent depuis 2019.
Tout à fait.
Donc depuis 7 ans, et que tu as créé, Quentin.
Oui,
tu es le fondateur de cette maison d'édition. Et la ligne éditoriale, et je te laisse du coup me corriger si c'est ça, mais c'est ce que tu m'avais dit, c'est une littérature prolétarienne et tu mets en avant notamment des auteurs oubliés.
Ouais, exactement.
Et les éditions Lanskin, dont on a un peu parlé tout à l'heure, qui existent depuis 2008, donc depuis plus de 15 ans, 18 ans même si on calcule...
si mes calculs sont justes.
Exactement, je vous laisse calculer dans vos têtes. Et la ligne éditoriale, c'est de la poésie contemporaine pour adultes et enfants, françaises et étrangères. Et on m'a dit que vous publiez ce que vous aimiez. Ce qui
oui,
plutôt...
c'est, je pense que ça marche comme ça, quoi. Chaque livre est différent, et beaucoup de premiers livres aussi, et ça fonctionne ouais, au désir.
C'est bien le désir. Et tu es arrivé il y a 2 ans dans la maison.
Ouais, 2 ans, okay. 2 ans et demi. Ouais.
Et donc la première question que je vous ai filée tout à l'heure, c'est avant qu'on parle d'édition indépendante, qu'est-ce que c'est l'édition indépendante ? Est-ce que quelqu'un veut en parler d'abord ? Mao.
L'édition indépendante, c'est l'édition qui n'appartient pas à un groupe. Être une maison d'édition indépendante, c'est être indépendant. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans un groupe éditorial, on n'appartient à personne, quoi, à part à nous-mêmes. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà.
C'est une maison qui se finance elle-même et qui n'a pas de sponsor, en gros, si on devait vulgariser.
Oui. Après, on a quand même des subventions, notamment du Centre National du Livre, qui permettent de faire nos livres ou d'avoir des accompagnements ponctuels sur des projets. Mais voilà, c'est ça, on n'a pas de...
C'est des subventions publiques, de toute façon, c'est pas privé. Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Enfin, est-ce que cette définition vous va également ?
Oui, ça me va tout à fait.
Mais j'étais même d'accord avec la limite que tu as posée. C'est vrai que on n'en subit pas de pression financière de la part d'un groupe ou quelque chose au-dessus de nous. Mais c'est vrai que des fois, on doit penser quand même en fonction de certaines contraintes, dont les subventions publiques qui sont un peu la limite parfois.
Et la clé de la vie des éditions indépendantes.
Ouais, le support.
Comment est-ce que vous êtes devenu éditeur et éditrice? Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Je vais commencer avec Quentin.
Ouais, en fait, moi j'ai un master de philo, j'avais pas du tout envie d'être prof. Et je me suis dit pourquoi pas les livres, mais comme je suis très peu manuel, pas l'imprimerie. Et donc plutôt l'édition qui est un peu au centre de tout, je trouve. J'ai rencontré des éditeurs qui m'ont dit bah essaye par toi-même. Et donc j'ai essayé de...
Débrouille-toi.
Et en fait, c'était une bonne idée, parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile peut-être de faire des livres, alors tout seul, je sais pas, non. Mais en tout cas, de faire des livres, d'être un éditeur indépendant, c'est peut-être plus facile en tout cas d'essayer.
Parce qu'il y a des ordinateurs, Internet, tout ça, c'est ça que tu veux dire.
Okay. Ouais. Et puis les coûts de l'impression aussi, en fait, finalement. Oui. Un livre, bizarrement, c'est toute la vie autour qui est chère, mais à fabriquer un livre, j'imagine que c'est beaucoup moins cher aujourd'hui que dans le temps.
Alors, on va y revenir juste après. Mais c'est non, pas du tout. C'est je ne t'engueule pas, c'est promis. Mao, toi, comment est-ce que tu es arrivée à l'édition ?
Moi, j'ai fait une licence de lettres et sciences humaines et parallèlement, j'étais élève en art dramatique au conservatoire du 12e arrondissement à Paris. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire de théâtre sur scène. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu et l'édition, ça venait un peu... L'édition de théâtre, c'était ça mon projet au départ. Ça venait un peu combiner ce qui m'animait à la fois d'un côté création, d'un côté théâtral et transmission. Enfin, voilà, ça m'intéressait à plein d'endroits. Donc j'ai décidé de faire un master spécialisé en édition et de travailler dans une maison d'édition de théâtre. Et comme j'ai eu de la chance, eh ben, j'ai réussi à faire ça. Il n'y a pas tant de maisons d'édition de théâtre que ça.
Et c'est un milieu très bouché par ailleurs. Donc,
Et il y en a encore moins qui sont capables d'embaucher parce que c'est des petites structures.
Et toi, tu voulais spécifiquement théâtral. C'est, autre chose, ça n'aurait pas été...
Je pense que si je n'avais pas trouvé dans cette ligne, enfin dans cette voie-là de l'édition de théâtre, j'aurais sûrement revu mes plans, mais je n'ai pas eu à le faire, donc je suis très heureuse.
Et Jules, tu t'es présenté rapidement tout à l'heure, mais peut-être que tu peux redire en deux mots d'où, comment tu es arrivé aux éditions Lanskin.
Moi, j'ai été débauché depuis la fac, où je faisais des analyses data dans un laboratoire d'anthropologie et archéologie.
Est-ce que la littérature ne serait pas un peu de l'anthropologie, finalement?
Non, je ne sais pas.
Et donc, du coup, vous avez trois maisons qui sont très différentes, parce que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes domaines, et aussi parce que vous n'êtes pas dans les mêmes types de structures. Parce que, par exemple, toi, Quentin, tu as créé cette maison, enfin, c'est ton bébé, finalement.
C'est un peu mon bébé, ouais. C'est une asso, parce que, c'était plus...
C'est l'édition Les Ronces.
Ouais, les Ronces, ouais. Enfin, Ronces Édition. Ça paraît, j'ai hésité, édition Ronces, édition Les Ronces, enfin Ronces Édition, mais bon, c'est une autre question. Et plutôt une asso, parce que c'était plus simple à gérer qu'une structure vraiment commerciale, une société, que je ne savais pas faire, j'avais pas envie d'avoir de compte à rendre. L'idée, c'était pas de se payer à terme, donc l'asso, c'est bien. Voilà.
Et l'idée, c'était de publier ce que tu voulais publier?
Exactement.
D'accord.
D'essayer en tout cas de publier ce que je voulais publier.
Donc, on revient sur la liberté de faire ce que tu veux en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors il y a aussi des limites, mais je pense qu'on y reviendra, l'aspect commercial, puisque c'est bien de publier ce qu'on veut, mais s'il faut vendre des livres. Hein. Enfin, voilà.
Pourquoi ça s'appelle Ronces Édition?
Parce qu'au début je voulais l'appeler Les Mains Sales, et puis en fait c'était déjà pris par une autre maison d'édition, donc j'ai dû revoir mes plans, et j'aime bien les ronces parce que ça pique.
Et ça fait, ça salit les mains aussi.
Ouais, ça salit les mains, exactement. Et après, il y a des fleurs aussi dans les ronces, mais c'était pas trop l'idée. C'était plutôt le côté vraiment épine.
D'accord, qui fait mal.
Qui fait bien mal. Ouais.
Jules, tout à l'heure, tu parlais d'un aspect économique, donc du coût du livre, en disant que paradoxalement, le coût du livre aujourd'hui était potentiellement moins grand que avant.
Oui. Après, ça reste cher quand même de faire un livre, surtout que le papier fluctue en permanence, enfin, les devis sont valables, 48 heures parfois, en tout cas avec notre imprimeur, il y a un flux de papier énorme, mais je pense que mine de rien, il y a eu pas mal d'avancées technologiques et puis des bons plans comme ça qu'on peut se refiler entre éditeurs, à chercher qui est l'imprimeur qui nous fera le devis le moins cher. Mais je pense en tout cas qu'aujourd'hui, en tout cas nous, dans nos coûts, c'est pas le coût de fabrication qui nous inquiète le plus. Après, c'est toutes les dépenses à côté. Si nous, on doit... Enfin, moi, je suis salarié. Et donc, il faut prendre ça en compte. Il y a tout un tas de choses. Nous, on travaille avec un... Est-ce que je peux faire la chaîne de distribution de...
Si tu veux.
En fait, un livre, nous, on est, je ne sais pas pour vous, mais nous, on est distribué, diffusé. Donc, il y a toute une part du prix du livre qu'on doit à notre distributeur, que ça comprend aussi ce que touche le libraire. Et en fait, le libraire négocie avec le distributeur. Et donc, ça c'est déjà presque 50% du prix du livre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans nos calculs. L'auteur qui touche aussi entre 8 et 10%, c'est ce genre de choses. Et si on veut organiser des rencontres, des lectures, si on veut envoyer les livres, les frais de poste aussi.
C'est ce que j'allais dire. Ça, du coup, éditeur indépendant, de facto, c'est des structures plus petites. Du coup, concrètement, dans vos métiers, vous faites quoi? Parce qu'on imagine souvent un éditeur comme quelqu'un dans un grand bureau, en train de lire des manuscrits en fumant un cigare, bien sûr, et en train de dire c'est peut-être le prochain. Je sais pas, Foucault, c'est sûr.
Rigole pas, c'est peut-être notre cas.
non mais c'est évidemment votre cas, mais j'imagine que dans des structures, évidemment c'est votre cas. Enfin, je veux dire, vous dénichez les talents de demain, d'aujourd'hui et d'hier, bravo. Mais, et c'est pour ça que vous êtes aussi ici. Mais qu'est-ce que ça consiste en quoi d'être éditeur indépendant en plus de lire des manuscrits, Mao? T'es en face de moi, c'est pour ça que tu...
Non, mais parce qu'en plus, je peux faire un lien avec la diffusion-distribution. Ça consiste à être un peu couteau suisse, parce qu'effectivement, comme tu dis, on ne fait pas que lire des manuscrits. Et puis, lire des manuscrits, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, il faut décider lesquels on va publier. Et puis ensuite, les mettre en page, les corriger. Enfin voilà, toute la chaîne de production, avant même qu'il y ait les histoires de diffusion et de distribution. C'est aussi beaucoup, comme dans plein de métiers, gérer des urgences qu'on n'avait pas prévues le matin en arrivant. On s'était dit, aujourd'hui, je vais lire plein de manuscrits. Et en fait, non. et nous, par ailleurs, pour revenir sur la diffusion et qu'est-ce que c'est qu'être éditeur, en tout cas, à Théâtral, on est donc une maison d'édition. Notre activité principale, c'est de faire des livres, mais on est aussi diffuseur. Depuis presque 10 ans maintenant, on a créé une structure de diffusion qui s'appelle Théadif, au sein de laquelle on diffuse non seulement nos propres livres, mais aussi les livres d'éditeurs et d'éditrices, dont la ligne éditoriale est le théâtre et les arts de la scène. Et on est distribué par la Sodis, donc un distributeur important.
Alors, quelle est la différence fondamentale entre diffuseur et distributeur?
Le diffuseur, il fait les flux d'informations, on dit comme ça. Et le distributeur, il fait tout ce qui est les flux physiques et les flux financiers. Donc, le distributeur, il envoie les cartons au libraire. Dans le carton d'un distributeur, il peut y avoir les livres de Théâtral, mais aussi les livres de plein d'autres maisons qui sont distribués par ce distributeur-là. Et c'est le distributeur qui gère tout ce qui est financier, donc il facture les libraires. Et puis, il envoie aussi les informations de vente au diffuseur ou à l'éditeur directement, qui va ensuite le facturer. Donc, c'est vraiment un point pivot, la distribution. Si on n'est pas distribué par un distributeur industriel, on va dire, en fait, en général, on est une maison qui s'auto-diffuse et qui s'auto-distribue. Et on est soi-même à faire des cartons. Peut-être que c'est ton cas,
Quentin. Ouais.
Oui, et à les envoyer par la poste, quoi.
D'accord. Donc, toi, tu démarches les libraires D'accord, physiquement.
Ouais. Auto-diffusé, auto-distribué. Donc, alors physiquement, non. Au début, j'ai essayé de faire physiquement, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent avec un résultat pas
forcément...
Avoir
une carte SNCF costaud pour pouvoir bouger.
C'est ça.
Quoi.
Ouais. Voilà, il faut être entier, je pense, pour faire ça. ce qui n'est pas mon cas. Et donc, en fait, c'est par téléphone essentiellement, et puis envoi de mail. Pour la distribution, c'est ça. Et puis, on demande aux amis aussi de filer un coup de main pour l'envoi des livres. Et puis, et ça prend énormément de temps quand on est une toute petite structure, qu'on soit tout seul ou pas. Et généralement, les gens qui sont tout seuls et qui s'autodiffusent, enfin, qui sont tout seuls, les petites structures où ils s'autodiffusent et ils s'autodistribuent, ça leur prend minimum 30% de leur temps, voire 50% de leur
donc
temps.
Donc c'est énorme.
Parce qu'il y a tout le suivi à faire aussi derrière. Enfin, il ne s'agit pas juste, entre guillemets, juste d'envoyer des livres, quoi. Il faut ensuite s'assurer qu'on va pouvoir vraiment toucher l'argent que ça représente, récupérer les livres pas vendus. Ce que fait un distributeur pour vous quand vous êtes distribué?
Donc, ce qui change énormément quand tu as un distributeur.
Oui. Et le distributeur, il permet aussi d'être disponible partout, tout le temps. Enfin...
Donc, c'est quoi le lien? Vous l'appelez c'est des deals de base et après...
Nous, on saisit des commandes. Nous, on est diffuseurs en plus. Donc, c'est nous qui saisissons les commandes pour les librairies. S'ils nous les demandent, le libraire, il peut aussi passer sa commande tout seul dans son coin s'il a une commande d'un client, s'il a entendu parler d'un, des livres qu'on publie. Et le distributeur va gérer toute la logistique. Enfin, c'est quand même beaucoup plus fluide pour tout le monde. En fait, en tant qu'éditeur, on gagne beaucoup de temps. Le libraire aussi, il gagne du temps. Et le distributeur est content.
Et on est content quand le distributeur est content. Quentin, mais aussi, je me rappelle, vous m'avez parlé du fait que vous faisiez aussi la mise en page de vos textes et les choix de couverture, donc ça aussi entre dans une catégorie qui est nouvelle, qui est aussi graphiste finalement.
Exactement, alors avec bonheur et malheur en ce qui me concerne, hein, parce que je ne suis pas du tout graphiste, et des fois je fais des trucs hyper moches.
Les livres de Quentin sont très beaux en plus.
C'est gentil, c'est vrai. Une brosse dans le sens du poil, c'est sympa.
Bah non, je pense qu'on est sûr de l'honnêteté.
Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si tu veux peut-être répondre. Ouais, moi, je me suis juste formé vite fait comme ça.
Ouais.
Quoi.
Voilà, mais toi, oui, peut-être non, bah, pareil, ouais, c'est vrai que maintenant, il y a des logiciels aussi qui sont assez faciles d'accès. Mais moi, en tout cas, j'ai pour objectif de... Je pense comme graphiste, c'est un métier, quoi. Vraiment un métier que je respecte énormément, parce qu'en ce moment, j'ai la chance justement de travailler avec une amie dont c'est le travail. Et c'est vrai qu'on fait pas le même métier, mais c'est un coût, puisque c'est un travail que nous on peut pas se payer habituellement. C'est par la force des choses qu'on met en page. Je sais que Catherine chez Lanskin, c'est pareil, elle s'y est mise toute seule comme ça, de manière empirique.
Elle disait que il y avait aussi eu des déboires parfois de fatigue en fait, parce que tu fais tellement de choses simultanément que tu laisses passer
des coquilles.
Puis surtout quand c'est toi qui relis et qui fais la maquette, là forcément tu laisses passer des erreurs.
Et puis tu connais tellement le texte que je pense que tu...
Mais tu fais plus attention, quoi.
Alors vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 et vous êtes dans l'émission Chute Libre, et on parle des éditions indépendantes en compagnie des éditions théâtrales, de Ronce éditions.
C'est ça.
C'est bien ça. Okay. Et des éditions Lanskin. Rebonjour. Après ce... par exemple, toi, tu as décidé de publier, pardon, Quentin, tu as décidé de publier des auteurs qui sont parfois morts, parfois vivants. Mais
c'est un critère.
Mort, c'est. Mais comment est-ce que tu choisis les auteurs que tu mets en avant?
Souvent, c'est des auteurs que j'ai. Alors, pour les auteurs, en gros, le premier texte, c'était une réédition. La réédition, plus que c'est des textes qui soient. Déjà paru avant, et en fait, nous, les rééditeurs, on choisit ce texte parce qu'on pense qu'il est encore il a encore un aspect contemporain et il peut dire quelque chose aux lecteurs et aux lectrices. Et donc, on y ajoute aussi parfois des postfaces, des préfaces, tout un paratexte et un appareil critique si on veut. Et le choix, il se porte sur des textes que j'ai lus et que j'ai beaucoup appréciés. Ou des auteurs que j'ai lus, beaucoup appréciés. Et alors, par exemple, pour Denis Belloc, qui est le deuxième texte qu'on a fait paraître, et je dis « on », mais je suis tout seul, hein. Mais voilà, ça donne un
c'est
peu
un
de...
« on royal ».
Un « on royal », voilà. Pour Denis Belloc, au début, moi, j'ai découvert « Néon », qui est un texte extraordinaire, mais on pourrait y revenir, et après, j'ai lu toute l'œuvre, sauf qu'il y avait déjà un super éditeur, enfin, deux super éditeurs qui avaient fait le travail pour les trois premiers, les éditions du Chemin de Fer. Donc je me suis rabattu sur le quatrième de Belloc, mais qui est très très bien par ailleurs. Voilà. On s'est un peu éloigné de la question.
Non, c'était ouais. Comment est-ce que tu choisis? En fait, tu choisis parce que tu as lu des textes qui étaient très beaux.
C'est au coup de cœur. Et puis
que tu veux remettre au goût du jour. C'est ça.
Et alors après, il y a aussi tout l'aspect droit, trouver les ayants droit. Quand ce sont des auteurs morts, sauf si c'est du domaine public. Donc domaine public, c'est quand on a dépassé en France, en tout cas, parce que le domaine public, ça varie en fonction des pays, 70 ans après la mort de l'auteur. Il peut y avoir aussi des prorogations spécifiques en fonction de si la personne est morte pour la France, des choses comme ça.
D'accord. Voilà.
Ça rajoute 20 ans, je crois.
Oui, c'est ça.
Ah oui, pour les ayants droit.
Apollinaire, par exemple, oui.
Ouais. Bam, 20 ans. Donc ça fait 90 ans pour les ayants droit.
Je crois que c'est ça, oui.
Oui, okay. C'est un truc comme ça, oui.
Fun fact.
C'est intéressant. Toi aussi, Mao, comment vous faites vos sélections d'auteurs, d'autrices théâtrales?
Nous, déjà, donc on publie, ça, le nom l'indique, mais on publie du théâtre contemporain. Comme Jules, on a très peu d'auteurs morts au catalogue. Je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non, mais blague à part, nous, notre ligne éditoriale, c'est de publier un théâtre qui se lit aussi. C'est un peu le slogan de la maison, le théâtre, ça se lit aussi. Parce qu'on estime que c'est une littérature à part entière, que c'est un genre littéraire comme la littérature générale ou la poésie. Mais dans la représentation du théâtre, on a tendance à se dire bah, le théâtre c'est un spectacle et c'est pas forcément un texte. Voilà, nous on essaye de choisir des textes qui peuvent se lire et s'apprécier comme n'importe quel autre texte de littérature.
Sans passer dans l'oralité, par l'oralité forcément.
Même si bien sûr c'est la destination, c'est le plateau évidemment, c'est les auteurs et les autrices qu'on publie, c'est des gens de théâtre, c'est souvent des comédiens, comédiennes ou metteurs, metteuses en scène, enfin voilà, c'est des gens qui travaillent dans le théâtre, donc c'est forcément une littérature adressée, mais c'est une littérature, donc c'est ça notre exigence. Et voilà, donc après on a beaucoup de propositions et on publie que 20 livres par an, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc faut ensuite arbitrer là-dedans. Mais...
Et tu disais justement que c'était important de faire comprendre que le théâtre se lisait aussi. Mais c'est vrai que l'édition de théâtre et l'édition de poésie contemporaine ne sont pas forcément les secteurs les plus faciles économiquement en termes de lecteurs. C'est très niche.
Oui.
Comment est-ce que vous faites pour...
En tout cas, oui, nous, pour la poésie, c'est vrai qu'on considère qu'on appartient à un créneau très particulier de la littérature, quoi, qui est presque littérature un peu expérimentale, où, ce qui nous permet aussi plus de choses, parce que quand je vois les livres qu'on publie, en fait, c'est vrai que les formes sont extrêmement diverses, ce qui est peut-être pas le... Non, je vais pas dire ça, parce que le roman aussi, maintenant, enfin, même je trouve que les frontières se brouillent entre roman et poésie, on sait plus vraiment... ce qui est quoi, en fait, c'est des catégories aussi qui sont déterminées par de... Je sais pas... par des besoins de les mettre en rayon dans des catégories très spéciales. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai que je pense que c'est pas non plus complètement différent de travailler avec un... De travailler, oui, avec un auteur mort ou un auteur vivant. Ce que vous disiez tout à l'heure, remettre au goût du jour. Enfin, en fait, nous, on fait la même chose aussi. On fait le pont entre une écriture et en fait, c'est des lecteurs qu'on va chercher. Et je pense que c'est ça aussi le métier d'éditeur. C'est pas seulement de découvrir pour le plaisir de la découverte, même si c'est un plaisir immense. Mais c'est d'amener le texte, de créer le chemin entre le texte et les gens pour qu'il arrive évidemment en librairie, mais aussi dans des lectures, enfin qu'il trouve ses lecteurs.
Oui, il y a quelque chose de. Il y a de la performance et de l'oralité, des rencontres, beaucoup, ouais. Notamment, que vous mettez en place. Est-ce que vous le faites aussi aux éditions théâtrales ?
Ça nous arrive de faire des rencontres en librairie, oui, ça arrive. Ça arrive.
D'accord. Voilà. Mais et vous travaillez beaucoup avec des compagnies ou pas, par exemple ?
Alors, pour les rencontres en librairie ?
Non, mais même de vous-même, à quel niveau vous arrivez à articuler le texte écrit et la mise en place de son oralité, en fait ?
Oui, je comprends. Pendant un certain temps, il y a eu une agence, on était aussi agent de certains de nos auteurs et autrices, notamment étrangers, donc on était plus en lien avec la représentation, puisqu'on gérait les droits de représentation. On ne l'est plus, c'est la SACD qui gère les droits de représentation en France, donc nous, on n'est pas forcément en lien direct avec la création scénique. On l'est par le biais de nos auteurs et nos autrices qui nous en informent quand il se passe quelque chose. Et voilà, on va voir, on relaie, on fait des choses, mais on n'est pas du tout... Enfin, on est vraiment dans l'édition, quoi. On est vraiment à l'endroit du livre et de cette transmission-là. Même si on est ravis quand le texte est joué, etc. Mais c'est pareil, c'est pas forcément un critère de publication pour nous que le texte soit joué. Ce qui compte, c'est qu'il soit lisible, enfin, qu'il...
Publiable.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est pas le même... Exactement le même travail, parce que vous travaillez avec des auteurs parfois souvent vivants, et donc il y a aussi un travail d'écriture. Je vais arrêter avec mes morts vivants. C'est...
Non, mais c'est bien parce que.
Et toi, tu travailles le texte, mais pas avec un auteur.
Alors, en fait, sur les quatre titres du catalogue, parce qu'il n'y en a que quatre,
pour l'instant.
Je suis un peu lent. Y a un vivant quand même qui est toujours vivant. S'il nous écoute, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop de dire ça. Donc il y en a un vivant, et donc ici il y a quand même un travail de. Ça dépend avec les auteurs, hein, mais il peut y avoir un travail de réécriture qui est fait. Et là en l'occurrence, il y a eu du travail de réécriture. Les auteurs peuvent être assez friands de ça, enfin des conseils et tout, ou au contraire, pas du tout. Ça dépend.
Désespérés de devoir couper des.
Exactement,
des choses.
Ou ils ne veulent pas changer une virgule, ça peut arriver. Mais ça ne m'est pas arrivé à moi, donc ça va.
Ça a l'air
c'est pas désagréable, en tout cas, même quand ça arrive, je trouve. Se battre pour une virgule, tout ça, je trouve que c'est
non,
quand même
oui,
assez gratifiant.
C'est assez sympathique. Moi, j'aime bien quand même arriver à mes fins avec les auteurs, mais souvent, voilà. Mais bon, je pense que lui aussi, il avait des choses à défendre qu'il a pas trop.
Des débats, quoi. Ouais, il s'est passé des choses.
C'est passé pas mal de choses, ouais. Mais c'était intéressant et le texte est bien, je trouve. Donc, voilà.
Je vous ai posé une question avant que vous arriviez, qui était un livre que vous auriez aimé publier. Et qui a déjà été publié et ne nécessite pas une republication. Est-ce que, Jules, tu as une idée ? Assez rapidement, parce que nous arrivons à la fin de l'émission.
Ben non, j'aurais bien aimé publier le livre dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, le Robert Couvert. J'avoue que ça m'aurait bien plu.
Ah ouais ?
un truc comme ça, quoi, un truc vraiment bien satire avec des personnages ultra contemporains. Je trouve de faire vraiment le panel de toute la comédie sociale.
Et de rencontrer Robert Couvert, du coup.
Oui, j'aurais bien aimé aussi, même si j'ai découvert sa photo deux jours avant et il avait un visage assez terrible parce qu'il n'était pas commode.
Mao ?
Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question depuis que tu me l'as annoncé et je n'ai pas vraiment de réponse sur un titre, mais il y a plein de livres du catalogue des éditions théâtrales que j'aurais aimé choisir de publier. Ils l'ont déjà été, donc j'en suis très heureuse. Et je pense qu'il y en a plein d'autres que je vais lire dans les prochains mois ou années qui seront des textes que j'aurais très envie de publier. Et comme ça, je n'ai pas à donner le nom d'un auteur ou d'une autrice et j'en oublie personne.
Pas de bataille au sein des éditions théâtrales.
Non, mais c'est pas le genre.
Et toi, Quentin ?
C'est pareil, je me suis fait une petite liste, j'ai pas trop réussi à décider. J'avais choisi Denis Belloc, Néon, parce que c'était vraiment un texte super. Et c'était au même niveau que Ernst Jünger sur les falaises de marbre, ou d'autres encore.
Voilà. Et pourquoi t'aurais aimé le publier spécifiquement ?
Parce que c'était vraiment un texte qui m'a beaucoup touché et en fait quand j'ai découvert le texte dans une librairie d'occasion je me suis dit faut le republier ce texte et là j'ai découvert que Le Chemin de Fer l'avait fait donc j'étais un peu jaloux mais j'étais aussi très content
vous êtes en parallèle Le Chemin de Fer et toi dans vos ce que vous appréciez
pas forcément sur tout mais pas, quelques trucs notamment et puis on se connaît donc on a fait des rencontres on a fait une rencontre en commun autour de Belloc donc ouais je pense qu'on se retrouve sur quelques trucs quand même.
Merci beaucoup, merci à vous d'être venus Jules, merci. Mao et Quentin, donc les éditions Lanskin, Ronce et Théâtral. Et merci à ceux qui nous écoutent. Cette émission a été possible grâce à Armand Gury à la technique et la radio Aligre. Vous pouvez réécouter cette émission sur les différentes plateformes d'écoute et sur le podcast Read. Et la semaine prochaine, c'est Emmanuel Gavard qui reprend l'antenne. Et nous, on se retrouve le 29 mai. Joyeux 8 mai!
C'était Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Vous écoutez Aligre FM 93.1.